On parle toujours de la technique de l'acteur. Mmh. Je ne me suis jamais occupé de ce genre de choses. Bon, bah, c'est venu comme ça, puis c'est comme ça. Ou travailler sa voix, ou des machins comme ça, mais jamais travailler ma voix. Bon. J'y crois pas trop à tout ça.
Ah, ils vont se multiplier.
Chut, chut, chut. Venez, on va se mettre en retard pour l'émission.
Ne fais pas de bruit. La palme d'or.
On est all to vous.
En 25 ans d'émission, je n'ai jamais raté une. J'ai jamais raté un rendez-vous avec mes auditeurs.
Say it again.
On est all to vous. Now, go away now.
Allez, action.
Action, pourquoi faire?
Je suis la reine Astrid, la reine des Belges. Une folle réplique parmi tant d'autres dans un répertoire vaste comme son talent. Jean-Pierre Marielle est parti, et avec lui une voix, une démesure qui emportait ses personnages, a dit Tavernier, à des hauteurs vertigineuses. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Je ne suis qu'un amateur d'effrayé, disait Marielle. Mon parcours s'allonge, mais est-ce que je m'améliore? Modestie d'un immense acteur qui ne croyait ni en la vocation, ni au fait que jouer puisse s'apprendre. C'est pourtant la question que nous poserons aujourd'hui, est-ce que être acteur, ça s'apprend? Élément de réponse au cours Florent, nous avons assisté aux répétitions des troisième année, juste avant le deuxième tour du conservatoire. Mes réponses surtout avec nos deux invités. Bonjour Dominique Besnéard.
Bonjour.
Le talent, vous connaissez pour l'avoir découvert chez beaucoup d'acteurs comme directeur de casting, puis agent et désormais producteur. Lui a été révélé dans Un prophète de Jacques Audiard et ne cesse de nous surprendre depuis. Bonjour Eda Kateb.
Bonjour.
Acteur sans méthode, dites-vous, comme Marielle d'ailleurs. Et à la fin de cette heure, un petit tour vers les sorties ciné de ce nouveau mercredi où la grande surprise vient justement d'un premier film réalisé par un acteur, Jonah Hill, c'est parti.
Observer, c'est une chose très importante pour les... pas pour tous les acteurs, mais pour certains acteurs comme moi qui sont des acteurs de composition. Il y a des acteurs qui sont des grands lyriques. Moi, je ne suis pas un grand lyrique, je suis un acteur de composition. Alors là, c'est l'observation, c'est regarder comment les gens vivent, c'est ouvrir l'œil, mais les grands lyriques... c'est une sorte de musique qui vient d'eux, comme ça. Je regrette, ce n'est pas mon affaire. J'aurais bien aimé être un grand lyrique.
12 avril 1932, 24 avril 2017, une vie. Jean-Pierre Marielle, 6 décennies de théâtre et de cinéma, Seria, Tavernier, Berry, Sautet, Corneau, Lecomte, parmi cette bonne centaine de films, stature, voix, faconde, drôle, jouisseur, baroque, mélancolique aussi, et surtout, surtout le goût du jeu, découvert très jeune Laurent avec ses copains en montant des pièces de Tchekhov.
Oui, vous avez bien raison Christine d'évoquer Tchekhov, car on ne saurait réduire le grand comédien qui était Jean-Pierre Marielle aux habituels adjectifs du genre gaulois, paillard et autres truculents. Car tchekhovien, c'est-à-dire mélancolique et rêveur, il l'était comme l'avait si bien senti Claude Miller en lui confiant un rôle de cette nature, dans sa mouette à lui qu'il avait appelée la petite Lily. Et c'est peut-être au théâtre qu'il était d'abord chez lui. Mais comment le cinéma aurait-il pu passer à côté de cette voix venue d'on ne sait où, fruit des amours incestueuses d'une contrebasse et d'un basson, qui a érigé l'étonnement, le circonflexe et l'ébahissement en un art majeur? Comment se passer en outre d'un tel œil de pigeon capable de jouer le gigolpin, sa rouflaquette, aussi bien que le flic effaré? Comment enfin ne pas succomber à cette palette dramatique allant de la farce à l'insondable mélancolie d'une âme? Marielle, jamais en manque d'un pas de côté, avait résumé lui-même cela en disant, je le cite, « J'entends encore la voix de mes enseignants, depuis le lycée jusqu'au conservatoire d'art dramatique, Marielle, arrêtez de faire n'importe quoi. Ne m'ayant jamais donné de bonnes raisons de leur obéir, j'ai continué. » Fin de citation. Alors oui, il a pu faire un peu n'importe quoi parfois, mais en l'assumant sans détour. Il a surtout fait tout le contraire, par exemple chez Sauté, en jouant Monsieur Fonfrin, magnifique et attendrissant crétin directeur d'un supermarché à Limoges, ou bien encore chez Bertrand Tavernier, en incarnant le grandiose marquis de Pontcallec, nobliau breton héritier direct de Don Quichotte. Et c'est d'ailleurs ce même Tavernier qui trouva à juste titre que deux Marielle, c'est encore mieux qu'un seul, en lui confiant, dans son coup de torchon, les rôles des ineffables jumeaux Le Perron et son frère Georges. On lui souhaite maintenant d'avoir déjà retrouvé ses deux presque frères pour un remake éternel de Que la fête commence. On imagine que Noiret l'a accueilli en lui disant « Jean-Pierre, mon petit chat, tu es en retard ?» À quoi Rochefort a répliqué « Volaille de merde, on s'en fiche !» Et Marielle leur a répondu « Mes enfants, quel voyage, quel voyage !» Le tout en sifflant, puisqu'un jour, Jean-Pierre Marielle a dit « Si je n'avais pas été comédien, j'aurais probablement fait clochard-siffleur.
Puisque vous connaissez la maison Godinot, je ne vous apprendrai rien. Vous connaissez la devise, qualité, solidité, imperméabilité. Et en plus, la maison, cette année, a fait un très très gros effort, tant au point de vue des modèles qu'au point de vue des coloris. Nous avons renouvelé toute la collection et sans majoration du prix de vente. C'est appréciable. Alors nous avons le 48 à 8 baleines, le 56 à 10 baleines, le 60 à 8 et 10 baleines pour les dames, et notre fameux 63 à 8 et 10 baleines que vous connaissez sûrement et qui est notre cheval de bataille. Tout ça dans une gamme de coloris très large, ça va du noir classique au rouge vif en passant par les jaunes et les verts dégradés. Parapluie plat, parapluie rond, parapluie doublé à baleinage invisible, bavolet arrondi, ombrelle de Thaïlande et notre parapluie d'ecclésiastique, modèle standard que nous faisons dans les dimensions habituelles, mais dans une gamme de coloris très variée et très jeune.
On ne peut pas indéfiniment arroser d'argent des gens qui vous tendent la sibylle d'une main et qui vous traitent de fasciste de l'autre.
Pour moi, ces notions de gauche et de droite sont totalement dépassées. Oui, je sais que je fais sourire ma petite Régine, la gauchiste de la famille, mais personnellement, j'ai toujours été socialiste et partisan d'une économie libérale.
Il y a des sensibilités et des courants d'opinion, bien sûr. Et heureusement...
En tout cas, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la fin des idéologies et des systèmes. Et ça, c'est important.
Oui, mais c'est vrai que...
À partir de quoi? Mais sommes-nous assez adultes politiquement, hein? Nous devrions dégager un large consensus national.
Ne coupons pas la France en deux.
Non, je suis navré, ma petite Régine, mais sans consensus, pas de Limousin, pas d'Occitanie, pas d'Hexagone et pas d'Europe, c'est clair. Excusez-moi, Madame Mayotte, je vous ai interrompu. Vous vouliez dire quelque chose?
Oui.
On jette le prétendant avec une flotte sur la côte d'Angleterre, on met la Prusse, la Suède et la Russie aux prises avec la Hollande, on donne la Sardaigne au duc de Savoie comme accueil au pape, et on couronne Philippe V, roi de la moitié du monde. Voilà.
Un acteur est en miettes à la fin de sa carrière.
Ah oui, ça c'est sûr.
Regardez bien mes yeux, je crois qu'ils sont humides.
Oui, en effet.
Ce sont des larmes.
Une émotion s'empare de vous.
Je crois que je suis enfin devenu un bon acteur.
Voilà un échantillon d'un immense talent de Jean-Pierre Marielle et Galette de Pont-Aven, quelques jours avec moi. Que la fête commence, les acteurs. Dominique Besnard, vous avez bien connu Marielle.
Ben oui, je l'ai bien connu parce que je l'ai rencontré. D'abord, j'ai un premier souvenir. C'est quand j'avais 15-16 ans, j'allais tout le temps au théâtre. Et je l'ai vu dans une pièce qui s'appelait Le Pape à New York avec Magali Noël. Et c'était une pièce où il était déjà à la fois dans le burlesque et dans le pathétique. Et je m'en souviens que j'avais été impressionné. Et j'avais pu le voir après, il m'avait donné un autographe. Donc je m'étais senti tout petit face à lui, c'était La Gaîté Montparnasse.
C'était de Peter Ustinov, non?
Non, pas du tout. C'est L'amour et les quatre colonels, la pièce de Peter Ustinov. C'est une pièce adaptée par Jacques Seigert, et voilà. Et ensuite, après je l'ai connu sur Le Moment d'égarement, où je faisais le casting, et il était avec Victor Lanoux, le film de Claude Berry, et là ils étaient drôles tous les deux, parce qu'on sentait qu'ils avaient peut-être la cinquantaine, ils avaient l'œil... Lanoux et lui, toujours en train de regarder, on dit ça, Saint-Tropez, alors. J'ai des souvenirs de regarder les filles comme ça, mais avec beaucoup d'humour. Et après, et là, je l'ai vraiment bien connu sur L'Entourloupe, un film de Gérard Pires, avec Dutronc et Gérard Lanvin, dont c'était un peu le début. Et là, on est devenu, et c'est la période où il était, ça devait être mon avis, période un peu compliquée. Il était un peu moqué de Dutronc. Dutronc le moquait un peu.
Oui. Voilà.
Ouais, parce qu'il avait un côté comme ça, grand escogriffe. Et moi, je l'ai beau. À ce moment-là, on est devenu amis. Et je me souviens qu'il m'a offert des Santiago. Voilà. On tournait dans le Poitou-Charentes, on tournait à Saintes. Non, à Niort. Et donc, comme agent, sur Max et Jérémy, sur la controverse de Valladolid, et j'allais le voir au théâtre. C'est un personnage très pudique. On parle jamais de pudeur. C'était un homme très pudique. On sentait que, alors, quand on dit, il a mis du temps à être célèbre, hein, parce que là, au début, son jeu n'était pas en accord avec son physique. C'est un homme qui a commencé, il a fait sauter la banque, il avait des petits rôles. Oui. Et il a fallu le théâtre, vous avez raison, il a toujours fait du théâtre. Mais après, il a joué Pinter avec Delphine Seyri, il a joué Sanders.
Très longtemps,
il n'avait pas il avait un emploi, il n'était pas terminé. On va reparler des acteurs, terminé.
Reda Kateb, Marielle, c'est un exemple pour vous?
Ouais, dans ce.
dans la légèreté qu'il avait à faire ce métier, à vivre, dans l'écoute qu'il avait. Je l'entendais parler d'observer. C'est vrai que c'était un fan de jazz. Il connaissait des milliers de disques. Il pouvait vous dire sur 4 mesures qui était le musicien à la batterie ou à la basse ou à la contrebasse. Et voilà, il avait à la fois beaucoup de panache et beaucoup de discrétion dans sa manière de tenir sa barre, quoi.
Il disait acteur, ça ne s'apprend pas, mais c'est ce qu'on va voir. Avril-mai, le concours de conservatoire préparé dans les écoles. Il y en a pléthore. Nous avons choisi le cours Florent et cette classe de troisième année préparée par Jérôme Robard. Merci à lui et à ses élèves de nous y avoir accueillis.
Juste que tu comprennes que là, ça c'est la limite du plateau qu'il y aura. C'est 8 mètres sur 8 au JTN.
Ok.
C'est ici, et les spectateurs seront à peu près, j'imagine, au mur là. Faut pas vous laisser impressionner. Vous allez être dans un lieu que vous ne connaîtrez pas, avec des gens qui vont vous regarder, que vous ne connaîtrez pas, qui sont peut-être déjà au conservatoire. C'est pas grave. Il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas que vous subissiez ce moment. Hein ? Si vous avez besoin de vous échauffer, vous vous échauffez. Si vous avez besoin de faire des pompes, faites des pompes. Si vous avez besoin de sauter à la corde, vous sautez à la corde. Et après, vous rentrez. Comme il n'y a pas de reconnaissance de lieu, je veux que quand vous arriviez dedans, vous preniez vraiment la mesure, savoir exactement où vous placez les chaises par rapport au jury. Vous ne laissez pas. Dites pas, putain, merde, j'ai oublié de faire ça. Putain, merde, je me suis mis trop loin. Non, vous êtes actif. Vous subissez pas.
Quand j'ai entendu votre nom, je me suis dit que ça devait être vous. Je savais que Tom vous connaissait du lycée. Quand j'ai ouvert la porte, alors là, j'en étais sûre.
C'est ça. Pourquoi vous avez rien dit? C'est drôle.
Oui.
Étirez ce rire. Étirez ce rire. Essayez de nous faire rire. Dans votre rire, essayez de nous faire rire. Que ce soit contagieux, comme un vaillement. Pourquoi vous avez rien dit alors?
Je sais pas. J'étais trop surprise.
C'est là où tu dois faire des progrès.
Yeah.
Qu'est-ce que vous faites maintenant, Laura? Qu'est-ce que vous faites maintenant, Laura? Yeah. Toujours avec une structure pneumatique, on va dire.
Ok.
Qu'est-ce que vous avez vu comme vous nous avez contaminé le rire. J'aimerais que vous contaminiez le jury de ce rire. Vous leur fassiez ce cadeau du rire, qu'ils puissent rire avec vous. C'est une vraie fraîcheur. Tout le monde va arriver avec des trucs à fond les manettes. Puissant, là tu leur offres une bulle de d'intériorité, de silence, de temps. J'espère qu'ils sauront la voir et que vous leur offriez le fait de rire tous ensemble. Quand on dit une belle phrase, elle arrive après dans notre esprit. Elle n'arrive pas au moment où on le dit.
Ouais.
Elle arrive après dans l'esprit des gens. Mais rien, c'est pareil. On commence à rire. Et puis après, on a vraiment envie de rire. C'est drôle. Parce que c'est un processus chimique, en fait.
Oui. C'est comme le bâillement, quoi.
C'est une chimie, on est une usine chimique. Donc c'est après, ça déclenche plein de choses en nous, notre cerveau déclenche plein de choses qui rentrent en nous.
Ouais.
Et puis après, il y a un phénomène de contagion, et c'est ça le jeu.
Vous savez, Laura, j'ai comme l'impression de vous connaître. Comme si j'avais votre nom sur le bout de la langue. Mais c'est pas vraiment un nom.
C'était pas Bleu Rosie.
Bleu Rosie! Bon sang, c'est ça! Bleu Rosie!
Comment vous vous appelez?
Léa Piette.
Louis Daven.
Vous êtes tous les deux en troisième année de Florent. Vous avez raté le premier tour?
Ouais, c'est ça, je me suis fait recaler au premier tour. C'est triste.
On sait pourquoi, vous savez pourquoi.
On n'a pas trop de pistes en vrai, hein, parce que ça s'était plutôt bien passé. Mais on a une note, donc j'ai eu A, ce qui est censé être la bonne note maximale. Mais dans le mail, ils disent vous avez eu A, ce qui veut dire que vous avez convaincu le jury, mais votre note n'était pas suffisante. Donc souvent, c'est, en fait, y a, dans ces cas-là, c'est qu'il y a un jury qui n'était pas d'accord sur les 5.
Vous vous êtes senti faible à un moment donné vous...
Pendant l'audition ?
Oui.
Bah pourtant non, j'étais vraiment présent, je me disais c'est là que ça se passe, c'est là que ça se passe. Mais après il y a un autre truc qui se joue, c'est l'entretien. Et en fait ils te demandent pourquoi vous voulez rentrer au conservatoire. Et j'avais pas du tout prévu ça. Donc j'y suis allé.
Vous le saviez ?
Mais non, je savais pas, je pensais qu'en fait on avait... l'oral c'était... Moi ce qu'on m'avait dit c'est au deuxième tour qu'on fait un 10 minutes d'entretien. Ou au troisième, je sais plus. Mm-hmm. Du coup j'étais un peu pris par défaut et je dis en fait tout ce qui me passait par la tête. Mais je me suis rendu compte d'un truc après coup, c'est que je les ai pas assez regardés dans les yeux. Et ça, ça peut jouer. Vous voyez, c'est toujours des petits détails, des petits trucs qui peuvent... comme ça, ça fait que ça passe pas. Mais...
Et qu'est-ce qui fait que Léa a réussi ?
J'en sais rien. Je pense que c'est un concours de circonstances. Enfin, en réalité, je pense qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre pourquoi notre nom est sur cette liste et pourquoi celui de notre ami n'y est pas, en fait. Mais bon, finalement, je pense qu'il y a eu de la chance, le travail que j'ai fourni, j'imagine.
Est-ce que vous vous sentez plus comédienne au bout de 3 ans chez Florent ?
Ah oui. Ah oui, oui. C'est sûr. Enfin, au début, je suis rentrée ici un peu perdue, sans avoir vraiment une idée de ce que moi je voulais faire, de ce que moi je voulais dire au monde, de ce que je voulais... En plus, on arrive ici, on est très très jeunes pour la plupart. Et en fait, on se retrouve avec des professeurs qui nous envoient une masse d'informations et de culture juste invraisemblable, quoi, incroyable. Et oui, au bout de la 3e année, oui, on se sent beaucoup plus comédien. Mais je pense que on a encore énormément à apprendre.
D'ailleurs, Louis, c'est à Florent que vous avez appris l'anglais, par exemple.
Exactement, ouais. Je suis arrivé, je comprenais un petit peu grâce aux jeux vidéo, mais je parlais pas du tout. Et quand j'ai passé l'audition, on devait écrire un petit truc et faire un monologue. La directrice, Isabelle Dupéré, elle m'avait dit « J'ai rien compris, mais t'es marrant, donc on va essayer d'améliorer ça. » Et il y avait des cours d'accent, il y a des cours de diction, etc. Donc ça m'a vachement aidé. Donc ouais, le truc d'un acteur... Au-delà du fait de parler anglais, c'est qu'il doit avoir un maximum d'outils pour qu'il... En fait, le truc, c'est l'adaptabilité. Donc, si tu sais parler anglais, si tu sais danser, si tu sais chanter, on te dit, OK, on a besoin d'un mec qui sait danser et qui sait jouer. Bon, bah, parfait, tu vois. Enfin, il faut toujours avoir des outils, être prêt pour l'appel. Parce que c'est ça aussi la vie d'un acteur, c'est t'attends l'appel, t'attends qu'on te dise, je peux faire ça ? Oui, je peux.
Ton idée est bonne.
C'est vrai ?
Ah ouais. Okay. Ouais, est-ce que tu crées un... Tu crées vraiment un suspense d'écoute, en fait. Tu nous donnes envie par cette absence, en fait.
C'est épuisant des journées comme ça, hein, parce qu'en plus, il y a une responsabilité énorme à les guider tous avant le concours.
Ouais, c'est épuisant, mais c'est aussi très enrichissant. Je me pose pas la question de la responsabilité, parce que sinon, ça me figerait, je pense. Je veux juste m'amuser avec eux et écouter ce qui me vient en moi, quoi. Le passage du conservatoire, c'est assez fou. C'est des concurrents. Il y avait 1600 personnes. Ils sont plus que 180. Il y en a pratiquement 120 qui vont partir, là. Donc j'essaye surtout de leur donner une confiance en eux, de l'endroit d'où ils viennent aussi, de leurs origines, et d'en faire non pas quelque chose qui soit un défaut, mais au contraire une force, un enrichissement. Donc j'essaye de leur expliquer, de leur permettre d'appréhender cette dimension de l'artiste et de l'acteur.
Est-ce qu'on repère, on se dit celui-là ou celle-là, c'est vraiment un acteur, ou on oublie de se dire ça quand on est prof comme vous ?
Non, on voit, mais un acteur, c'est... Il y a des gens qui ont des qualités immenses, mais qui les laisseront pourrir. Puis il y en a qui ont moins de qualités, mais qui, à force de persévérance et d'envie, développeront des choses fabuleuses. C'est un peu la fable du Nouveau Testament, hein, qu'as-tu fait de ton talent ? Après, on n'est pas tous égaux sur notre détermination et notre capacité à atteindre nos rêves. J'avais pour ami un homme qui est mort, que j'adorais, qui s'appelait Maurice Garrel. Et Maurice disait, mais si tu veux être acteur, il faut rêver d'atteindre le soleil pour atteindre la lune. À 20 ans, il faut que tu rêves d'être Marlon Brando. Donc la notion de rêve et de mettre les moyens pour atteindre son rêve, elle est presque plus importante qu'un talent inné qui n'est pas fructifié après.
Ça s'apprend d'être acteur ou pas ? Est-ce que ça s'apprend ?
Oui, ça s'apprend. Il faut avoir des yeux bienveillants qui se posent sur nous. Il faut beaucoup d'amour pour s'épanouir, pour oser. Les premières fois qu'on monte sur un plateau, on tremble, on a peur. On a terriblement peur. C'est une membrane réelle à passer. Puis au fur et à mesure, on s'aperçoit qu'on est plus là pour les autres que pour soi. On est là pour soi, évidemment, c'est le point de départ, mais qu'on est plus là pour les autres, qu'on a envie de donner. À partir du moment où on a envie de donner et qu'on a conscience du don qu'on fait, on a moins peur.
Oh là là, je suis désolé.
C'est pas grave, vous connaissez à peine.
Mais si, ça y est, ça revient. Vous étiez souvent en
retard. Vous, Reda Kateb, vous n'avez pas fait d'école.
Non, je n'ai pas fait d'école.
Ouais, vous avez fait du théâtre de rue, vous avez fait du théâtre d'intervention, vous avez travaillé sur des textes, vous avez suivi votre père en tournée, mais vous n'avez pas appris le métier avec des professeurs.
Enfin, avec mon père un peu.
Oui.
C'est-à-dire que c'est, mon père était acteur de théâtre et j'ai vraiment grandi en partageant cette chose avec lui. Et c'était voilà, aller sur le terrain de jeu de mon père. Au début, c'était pour ça que je voulais faire un comédien. Donc c'est un peu particulier comme expérience, mais du coup je l'ai suivi, j'ai pu échanger avec lui lors de mes premiers cours de théâtre au lycée. J'ai pas fait d'école, mais j'ai quand même pris quelques cours. Je me suis vite aperçu que c'était pas mon chemin d'aller dans des cours comme celui dont vous passez un reportage.
Mais ça vous manque la technique ou pas ?
Non. Non, au contraire, je bon pour le coup, plus on travaille, plus on peut avoir de la technique et en même temps, il faut en même temps se méfier de capitaliser quoi que ce soit. Moi, j'adore avoir peur avant de commencer un nouveau tournage. En même temps, lorsque je le commence, je me rends compte que j'ai vite des repères qui se mettent en place parce que voilà, le corps s'habitue, l'esprit aussi. On finit par connaître mieux son métier, mais il faut tout faire pour ne jamais devenir adroit. Et je déteste cette idée de l'acteur avec sa boîte à outils qui vous sort le rire, le pleur et qui peut vous ouvrir ça. Comme c'est à travers la rencontre, c'est des rencontres avec des textes, c'est des rencontres avec des gens, avec des univers. Et dans la friction avec tout ça, dans l'échange avec tout ça, on peut se rencontrer soi-même. Quoi.
Vous avez déjà côtoyé quand même en face de vous des acteurs qui avaient une technique justement dont vous sentiez, vous voyez, cette
la
formation.
Lourdeur, quoi, on a plus
oui,
en plus, parfois.
Mais enfin oui, pour le coup, tous les acteurs sont différents et moi, j'ai pu travailler avec des acteurs qui sont d'excellents techniciens et avec lesquels en même temps ça vibre, quoi. Je pense que voilà, il faut qu'à aucun moment la vibration brute ou la technique prennent le pas l'un sur l'autre. Il faut essayer de marcher sur ce fil-là, quoi.
Dominique Bessière, je posais la question à Jérôme Robard. Est-ce que ça se voit quelqu'un qui est acteur ? Vous, ça a été votre métier de les repérer. Est-ce que ça se voit tout de suite ?
Ça dépend. Hein. Je veux dire, moi j'étais responsable de quelque chose qui s'appelait les acteurs Kleenex. On m'a appelé à un moment donné. Bon, j'ai fait des fautes.
Oui.
C'est-à-dire que je faisais souvent des films où on cherchait des gens comme ça, qui n'avaient pas forcément un métier. Et tout d'un coup, ils se sont retrouvés avec des rôles importants à cause de leur nature jeune ou leur charme. Et puis avec le temps, ça suffit pas.
Oui.
Donc moi, je pense que bien sûr qu'il faut pas avoir que des boîtes à outils, mais il faut quand même quelques outils, parce que à un moment donné, il y a quand même une technique à avoir. Et je vous dis que quand on voit dans les années 80 tous les gens qui ont été dans des rôles importants que j'ai trouvés, qu'est-ce qui reste à la fin ? Et à un moment donné, il faut quand même une technicité, il faut savoir avoir quand même une boîte à outils. Mmh. Et je pense qu'au théâtre, alors vous savez, le problème, là où je suis tout à fait d'accord avec Reda, c'est que il n'y a pas de loi. Moi, un jour, j'ai vu Charlotte Gainsbourg au théâtre qui, on se disait, mais pourvu qu'on puisse s'entendre au troisième rang, c'était moi ma panique. Elle jouait une pièce avec Maurice Bénichoux et elle était absolument magnifique. Et elle avait jamais pris de cours. Mmh. Et puis, il y a des gens qui ont besoin d'une technicité, d'avoir appris. Donc, c'est compliqué. Je veux dire, Fabrice Luchini, si vous lui dites qu'il n'y a pas besoin d'outils, il a été chez Jean-Laurent Cochet et moi je l'ai vu il y a quelque temps, il m'a parlé que de Jean-Laurent Cochet. Donc voilà, c'est compliqué, chacun a sa méthode et chacun a sa son mode de fonctionnement, voilà.
Non, ces outils, moi, ça dépend de quels outils on parle dans la boîte à outils. C'est savoir tenir ses marques sur un plateau, reprendre des raccords, être à la rencontre des textes, savoir dire un texte, savoir être entendu par une salle de théâtre, etc. Ça, c'est des bons outils. En revanche, il y a énormément de stages, par exemple, pour des gens qui rêvent d'être acteurs sur comment réussir ses essais face à la caméra.
Oui, il y a des cours de casting.
Je veux décourager incroyable. Toutes les personnes qui rêvent de ce métier.
C'est de l'arnaque.
D'aller
c'est
là-dedans,
l'arnaque.
Mais ouais. Vraiment. Enfin, voilà. Et là, pour le coup, les gens vendent des boîtes à outils dans lesquelles on peut, comme dans un entretien d'embauche, séduire la caméra, séduire les gens et devenir un jour une vedette. Mais c'est tout un business un peu parallèle autour de ce métier qui est fait sur la précarité et sur le rêve des gens de faire ce métier. Donc non, par contre, la technique du théâtre, faire des choses et aller, voilà, rester dans une curiosité, ça c'est important.
Dominique Besnard, vous avez découvert très tôt Béatrice Dalle en couverture.
Qui a jamais pris de cours de théâtre.
Voilà, justement. On va
réécouter. Et qui a fait du théâtre.
Oui, et qui en fait maintenant.
Elle est excellente.
On écoute maintenant raconter un peu justement ses débuts, 37 de le matin.
C'est vraiment un hasard d'avoir fait des photos, de me retrouver en couverture d'un magazine et Dominique voit ça, il faisait le casting de 37-2, quoi. Et physiquement, je ressemble à la description qu'on imaginait. Et puis après le coup de fil, je crois qu'il ressemble encore plus. Sur le casting, il y avait toutes les actrices de France, dessus les connues, les pas connues. C'était... Quand je suis rentrée dans le bureau, je savais que c'était moi qui allais le faire. Mais c'est pas de la prétention, parce que je n'ai plus de trucs, c'est évident, quoi. C'était écrit sur la tête à Vénex. C'était pas une ambition dans ma tête ou d'un seul coup, tu vois, autant aujourd'hui je peux dire, ouais, c'est bien sûr que ça m'est pas tombé dessus par hasard parce que c'est devenu tellement ma vie. Je vois vraiment pas, déjà je voyais pas à l'époque non plus ce que j'aurais pu faire.
Je t'aime!
Hein?
Je t'aime!
Encore?
Je t'aime!
Encore?
Je t'aime! Je l'aime!
Dominique Besnard, est-ce qu'il faut avoir été acteur pour savoir les repérer?
Non, moi je pense qu'il suffit pas d'être acteur. Moi, si vous voulez, j'ai jamais vraiment voulu être acteur. Tout le monde a pensé que j'avais fait ça par dépit, pas du tout.
Vous avez eu la rue blanche.
Oui, j'ai fait la rue blanche, mais en classe de régie, mise en scène. Non, quand j'étais au lycée, j'ai fait du théâtre. J'étais même la petite vedette locale du lycée de Deauville. mais je connaissais mes limites. Je me disais pourquoi moi, pourquoi. En fait, quand j'ai toujours eu les pieds sur terre, et en même temps, voilà, peut-être aussi que j'ai vécu par transfert mon amour. Des acteurs et des actrices. Mais si vous voulez, jouer m'amuse un peu parce que j'ai quand même eu. Je sais que vous êtes fous tous les deux de Maurice Bialat, mais c'est vrai que là, tout d'un coup, on est dans un autre truc. Hein. Moi, j'avais refusé, puis après, tout le monde m'a dit, mais tu peux même sauter, m'a dit Dominique, vous ne pouvez pas rater un film de Bialat. Parce que moi, j'ai imaginé tous les à côté, les hystéries, les trucs, et en fin de compte, heureusement que je l'ai fait. Mais ce que c'était avec Maurice, c'est qu'on n'est plus dans le... On est dans une espèce de folie et de... Il se passe quelque chose, c'est-à-dire que moi, j'ai même perdu l'oreille, je n'entendais plus d'une oreille tellement j'étais concentré parce que je me suis dit, mais en même temps heureusement que je l'ai fait, mais jouer avec Bialat, même il arriverait à émouvoir quelqu'un qui joue comme un bout de bois, donc il a un truc fort, mais moi j'ai quand même fait beaucoup de films.
Alors justement, on n'a pas choisi Bialat, figurez-vous, comme extrait. On va choisir un autre film avec vous, Un sac de billes.
Ça, c'est mon premier rôle.
Exactement. Et vous êtes éducateur dans le film.
Oui, hein,
un peu pétiniste.
Comment, oui, très pétiniste.
Voilà, c'est ça. On écoute l'extrait.
Alain, Bernard, viens, vous sortez. Bon, les jours faut rester là. Merci. J'ai quelque chose de grave à vous dire. Votre père a été arrêté. Dans la rue, on a trouvé ses papiers et
non.
Il est à l'hôtel où
non
il est arrêté. Et ils vont faire le rapprochement, il faut partir.
Je vais chercher Papa Jo.
Mais tu peux pas, écoute. Je me suis occupé de vous. Vous irez dans les Alpes.
Je veux pas aller dans les Alpes.
Mais comprends que tu peux pas retourner à l'hôtel Excelsior, c'est pas possible.
Peut-être nous arrêter, il a raison. C'est bien. T'es fou ou quoi, toi? Tu vas laisser papa mourir?
Il n'est pas question de le laisser mourir. Non, laisse-le. Il n'est pas question de le laisser mourir. Vous pouvez pas retourner à l'Excelsior, ils vont vous arrêter. Allez, écoute.
Reconnaissez-le, vous êtes bon, Dominique Besnard.
J'avais 20 ans. Hein.
Mais oui.
Oui, mais non, mais c'est aussi, vous me parlez aussi de Doyon, qui Doyon est oui, un peu, peut-être avec Piala, peut-être le plus grand directeur d'acteurs que j'ai rencontré, surtout pour les enfants. Et moi, j'étais un enfant quand même, parce que j'avais jamais tourné. Mais voilà, là, vous prenez des exemples où on peut être bon avec des gens comme ça. Mais j'ai fait aussi des rôles où c'était plus classique, fallait rentrer dans les marques et répéter. Voilà, voilà. Mais moi, j'aime bien un film dont je suis très fier. C'est le film d'Haneke, quand même, où j'ai quand même une très belle scène avec, là, c'est là, peut-être le, avec Piala et Doyon, c'est peut-être le plus beau souvenir, c'est dans Happy End, la scène avec Jean-Louis Trintignant où il me demande la mort. Je peux vous dire que là, je me suis épaté moi-même, tellement je me suis dit, mais est-ce que je vais arriver à jouer ça?
Ah, vous vous êtes épaté, ça veut dire que c'est le talent de Haneke de vous faire jouer comme ça, c'est quoi?
Eh bien, tout d'un coup, je savais pas que j'avais ça dans les tripes, voilà. Et que d'annoncer à quelqu'un qui annonce que il veut mourir et qui me demande une arme. Honnêtement, c'était pas facile.
Mais qu'est-ce qu'on mobilise à ce moment-là, en soi?
Bah, d'abord, d'être en face de Jean-Louis Trintignant, que j'adore et que, après, on a une histoire commune avec Marie, tout ça. C'est pour ça que j'avais refusé au début. C'est trop dur. Et en même temps, Jean-Louis a vraiment insisté pour que ce soit moi, comme s'il avait envie qu'il y ait quelque chose d'intime entre nous. Et c'était, c'est un souvenir. Côté, quand on a arrêté, parce qu'on m'a fait, je sais pas combien de prises avec, 30 plans séquences. C'est pourvu que j'y arrive. Et puis je me suis dit que c'était une scène pivot. Je peux te dire que j'ai pleuré. J'étais dans les bras d'Haneke. C'est pas vraiment quelqu'un qui a envie de sauter au cou. Tellement j'étais content de ce que voilà. Parce qu'il s'est passé quelque chose. Et là. Ou a raison Reda, c'est que les grands acteurs, c'est qu'à un moment, je dis pas que je suis un grand acteur, mais il y a quelque chose qui nous dépasse et que ça, c'est malgré nous. Et quand on se contrôle trop, quand on répond à la question, c'est pas forcément là où c'est le mieux. Hein.
Reda, vous aimez vous inspirer du réel. Reda Kateb, vous aimez vous inspirer du réel. On a choisi un extrait de Gare du Nord parce que dans Gare du Nord, il y a à la fois le réel et la fiction, on peut dire, hein, de Claire Simon. Ouais. C'est une scène avec Nicole Garcia, vous faites une enquête.
Moi, je fais de la socio. Paris 8, bien sûr. Je fais ma thèse ici.
Ici, Gare du Nord. Une thèse de doctorat?
Ouais, je fais les enquêtes pour me financer. Hein.
Pourquoi vous n'avez pas une bourse ou une allocation de thèse?
Non, j'ai pas de piston. Hein.
C'est pas une question de piston.
Ah ouais? C'est nouveau, alors ça vient de sortir. Hein.
C'est quoi votre sujet de thèse? C'est la gare, c'est la SNCF?
Non, c'est pas la SNCF. C'est... ici, on est nulle part. Et en même temps, c'est comme une place de village. Et si ici, c'était un village, ce serait le monde.
Reda Kateb, où je disais le réel, c'est ça votre matière première? L'observation, comme disait Marielle au début?
Ouais. En même temps, l'imagination, le rêve, ce qu'on a, ce qu'on peut apporter comme supplément de vie, parce que sinon, ce serait que du documentaire, on serait des objets de documentaire. Mais comme matière première, en tout cas, moi, j'adore les enquêtes. J'adore dans les préparations de rôle passer du temps comme un journaliste, comme un sociologue, à tourner autour du rôle. Je déteste chercher la psychologie d'un personnage frontalement. Ça, je préfère l'aborder avec le metteur en scène sur
Alors,
le plateau.
Alors, qu'est-ce que ça tombe bien ce que vous dites, parce que sur la psychologie des personnages, voici un peu l'opinion de Marielle.
Ça m'intéresse pas beaucoup l'étudier la psychologie des personnages. Les personnages, je vais comme ça à eux, ils viennent doucement vers moi. On a une sorte de fusion comme ça, mais autrement, je réfléchis pas trop. Me pose pas trop de questions à ce sujet.
Elle se fait quand, cette fusion?
Ça, j'en sais rien, c'est le mystère. Les fusions, c'est toujours mystérieux.
Oui, d'accord.
Nous sommes d'accord.
Mais il y a du temps, il y a de la maturation, vous réfléchissez?
Non, je réfléchis pas beaucoup, c'est pas tellement mon genre de réfléchir, malheureusement. Mais ça se passe comme ça, un petit peu. Ça se passe des fois pour les acteurs à leur insu. Tout à coup, comme ça, les choses viennent, on ne sait pas très bien d'où ça vient, ils ne savent pas très bien pourquoi, et puis voilà. Il y en a d'autres qui travaillent beaucoup, qui fabriquent tout comme ça, et puis ça ne vient pas. Voilà, et alors c'est comme ça que ça se passe. Voilà.
Et pourtant, Marielle a fait le conservatoire, hein, Dominique Besnéa.
La, la bande du conservatoire. Avec, Belmondo, avec Marielle Belmondo, Fabien. Bruno Crémer, Françoise Fabian, Annie Girardeau, Françoise Brion.
Donc c'est pas une
équipe. Hein.
C'est pas une pause, je pense, Reda Kateb, quand il dit ça, il y a pas de, on n'étudie pas la psychologie. C'est pas une pause.
Non, non, c'est pas une pause du tout. C'est extraordinaire de l'écouter parler du métier. Moi, j'aurais envie que ça continue, là, l'extrait. C'est dur de passer derrière Marielle parler du métier d'acteur.
Non, non.
Mais non, c'est pas une pause du tout. Et je pense que, pour le coup, c'est quelqu'un qui travaille, mais qui travaille, enfin, qui travaillait au bon endroit. Le bon endroit, pour moi, c'est la justesse. C'est chercher à être juste par rapport à l'histoire qu'on raconte, l'endroit où on est, ce qu'on a à jouer. Et c'est tout, et tout le travail doit aller dans ce sens-là pour moi.
Et être un bon acteur aussi, c'est durer, Dominique Besnéa.
Oui, de durer, c'est ça le plus difficile, oui. Hein, je vous dis.
Oui.
Et oui, parce que tout d'un coup, en même temps, il y a le facteur chance. Hein, et à un moment donné, on est là, on a besoin de vous, ça correspond. Et puis, il n'y a pas de... Oui, c'est aussi compliqué. C'est quand même quelque chose de... C'est compliqué. Il y a un mystère autour de l'acteur. Il y a un mystère. Pourquoi, à un moment donné, on accroche? Pourquoi, je sais pas, à l'image est amoureuse de vous? Comme disait Sauté, en parlant d'une actrice que j'adorais, il me dit, le problème de Coco, elle n'imprime pas. Je veux dire quoi, elle n'imprime pas? Mais elle est bonne actrice, elle est belle, mais elle n'imprime pas.
Moi, j'ai passé quelques années à pas imprimer, justement, à envoyer mes photos au directeur de casting, à ne pas pouvoir passer d'essai, ou quand j'en passais, à ne pas imprimer parce que je crois j'avais trop envie et j'étais trop volontaire et donc cette chose-là faisait qu'à chaque fois ça marchait pas et puis moi-même je m'amusais pas lors de ces essais, il y avait quelque chose qui se passait pas et puis à un moment il y a plus de lâcher prise, il y a quelque chose qui arrive quoi.
Pour refermer ce plateau parce que le temps le fait avance
vite. Chez vous, hein.
Mais oui, on va retrouver Aldous Harding et The Barrel. Mais juste avant un dernier adieu à Jean-Pierre Marielle. Avant de nous quitter, je vous ai écrit une lettre.
Oh, bah dites-moi. Mais vous n'allez pas la lire devant tout le monde.
Si. Cher Jean-Pierre Marielle.
Oui.
Juste avant de partir, oui. Je profite de vous avoir quelques secondes encore en face de moi pour vous lire cette lettre. Comme ça, je suis sûre que vous la recevrez.
Dites-moi.
On souligne souvent la superbe tonalité de votre voix et votre faconde. C'est pourtant un plan muet sur vos yeux qui m'a beaucoup impressionné dans cette scène de Faux que ça danse. Vous êtes assis à la cafétéria, en face de cette jeune étudiante. Un plan de quelques secondes sur votre regard, en train de regarder cette fille. Il y a dans vos yeux tant d'énergie, de vitalité et de désir. Voilà ce que mes yeux ont vu, un détail dans ce tableau, votre carrière, un détail capital, après tant de films, cette capacité de garder cet appétit intact. Alors, bon appétit encore pour longtemps, et je vous embrasse.
Oh madame, c'est tout à fait exquis ce que vous venez de dire. I feel your love. I feel time is up. When I was a child. A transient hut. The water's the shell and we are the nut. But I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside an old. It's already dead. I know you have the dove. I'm not getting wet. Looks like a date is set. Show the ferret to the egg. I'm not getting let alone. It's already dead.
a date, he said. Show the ferret to the egg, I'm not getting let alone.
The barrel, the barrel,
it's already dead. I know you have the dove, I'm not getting wet.
The barrel, the barrel,
looks like a date, he said. Show the ferret to the egg, I'm not getting let alone.
On va parler des sorties de la semaine, Laurent. La Miséricorde de la Jungle de Joël Karekezi. 1998, région du Kivu à la frontière entre le Congo et le Rwanda, alors que la deuxième guerre du Congo fait rage, deux soldats rwandais, rescapés du génocide et combattants dans l'armée congolaise, se perdent dans la forêt et ils ont été dispersés par leur bataillon, la forêt qui est vaste, dense et hostile. Et le metteur en scène, lui, en fait, a connu les massacres.
Ah, c'est un rescapé du génocide. Ouais. Clairement, le film a été primé au dernier festival, le FESPACO, un grand festival africain. On ne peut qu'être, disons, touché, ému par ce film qui parle de choses que son auteur connaît parfaitement et a vécu intimement. Avec une description très dure des horreurs de la guerre. Après, il se trouve que cette confrontation entre deux hommes, eh bien, scénaristiquement, par exemple, en termes justement de caractérisation des personnages pour ces deux acteurs-là, c'est un petit peu plus lâche, c'est un petit peu hésitant, on va dire, et ça donne à l'ensemble un côté bancal, c'est-à-dire qu'on est dans une extrême force sur ce que ça raconte et peut-être moins bien sur la façon de le raconter ou faire passer par le truchement du cinéma et du scénario ce que l'on veut faire raconter. C'est ce petit bémol que je verrai à ce film qu'il convient de toute façon d'aller voir et qui s'appelle La Miséricorde de la Jungle.
90 ou 90 si vous préférez, de Jonah Hill. Un acteur qui réalise son premier film, c'est toujours intéressant. Qu'y a-t-il dans la tête de celui qu'on a vu dans Le Loup de Wall Street ou des comédies déjantées comme En Clope, Mode d'emploi ou Super Grave? Eh bien, il y a dans la tête de Jonah Hill une grande sensibilité pour raconter ce qui pourrait ressembler à sa jeunesse. Celle de Stevie, 13 ans, qui a du mal à trouver sa place entre une mère souvent absente et un grand frère caractériel, jusqu'au jour où il rencontre une bande de skateurs, un été comme un apprentissage. Et le skateboard, comme métaphore, merveilleuse idée, explorée avec une justesse mais inouïe. L'adolescence et ses moments clés, revisités dans un récit drôle, dur, sincère et incroyablement émouvant, comme cette première scène que beaucoup d'entre nous ont vécue, l'exploration interdite de la chambre du grand frère. Le tout couvert d'une sacrée bande son milieu des années 90, des plans de cette bande glissant au crépuscule sur les pente de Los Angeles. En vous parlant, j'ai qu'une envie, c'est d'aller le revoir, ce film. Ça s'appelle 90s.
Oui, on songe inévitablement à Gus Van Sant et son Paranoid Park, mais on songe bien, on a raison, et en même temps, c'est une belle référence. Et le film, ce nouveau film, tient très très bien la route tout seul pour parler, effectivement, de ce passage à l'âge adulte.
Je vois rouge, premier long-métrage documentaire de la réalisatrice bulgare Božina Panavotova. Après 25 ans passés en France, eh bien, elle retourne en Bulgarie avec un soupçon vertigineux et si sa famille avait collaboré au service secret du régime communiste.
C'est absolument passionnant parce qu'effectivement, elle fait un travail, une sorte de son propre travail de mémoire familiale. Elle en arrive peu à peu à comprendre, à découvrir que effectivement, ses grands-parents chéris jusqu'à présent ont peut-être pas été blanc-blanc dans le soutien au régime et dans la collaboration active au fond avec l'espionnage aigu qui caractérisait ces sociétés communistes. Et elle monte son film de cette façon-là, c'est-à-dire un vrai suspense. On découvre progressivement, elle se fait espionne de sa propre famille elle-même. Ce qui pose évidemment le problème du documentaire et qu'elle se pose jusqu'où on peut aller trop loin dans l'exploration des gouffres intimes de sa propre famille à travers un média qui est tout sauf effectivement intime, qui est le cinéma. C'est-à-dire, elle nous donne cette histoire à voir, elle s'interroge elle-même. Il y a des dégâts collatéraux dans cette famille, dans sa famille, qu'elle ne n'épargne pas. Ces dégâts sont montrés et il y a donc une vraie exploration cinématographique de cet enjeu-là.
On va terminer avec Monrovia, Indiana. C'est le nouveau doc de Frédéric Wiseman. Monrovia, c'est une petite ville agricole du Midwest américain. 1400 habitants, dont 76 ont voté pour Trump.
J'ai mal parce que je vais faire pour la première fois de ma vie, je crois, quelques petites réserves sur un film de Frédéric Wiseman. C'est dommage. Je n'ai pas très très bien compris les enjeux qui consistaient à nous montrer, comme d'habitude, sans commentaire, une ville de 1400 habitants, mais qui n'a rien à voir avec une ville de 1400 habitants en Europe. Donc nos repères sont perdus, on perd nos repères sur ce que, moi en tous les cas, sur ce que nous montre Frédéric Weizmann. Il reste qu'il y a des scènes nombreuses du conseil municipal de cette ville qui sont absolument formidables, où là, on ressent toutes les tensions intracommunautaires de cette ville.
On va passer au cadeau pour nos deux invités. Alors, qu'est-ce qu'on a choisi pour...
Eh bien, pour Dominique Besnéard, un acteur, Michael Caine, bien sûr, qui vient de sortir ses mémoires, fabuleux acteur qu'on adore, évidemment, avec la distance nécessaire qui s'impose pour un Anglais, et il nous raconte tout, ses collaborations multiples, etc. Donc, c'est vraiment un bel ouvrage dont j'ai déjà oublié le nom de l'éditeur, mais c'est pas du tout, c'est Baker Street. Merci beaucoup, Dominique.
Sir Michael
Caine, absolument. Ouais. Et puis, pour vous, Reda Kateb, un acteur que vous connaissez peut-être, James Stewart. Il est dans Les Affameurs, un film d'Anthony Mann, un western d'Anthony Mann, qui sort dans un très beau coffret chez Rimini Édition, avec en plus le fac-similé de l'avant-scène cinéma qui donne le scénario intégral. Vous pourrez répéter le rôle de James Stewart. On le recommande vraiment chaudement à nos auditeurs chez Rimini Édition.
Moi, j'aimerais vous faire dire un mot encore, un petit mot, Dominique Besnéard, parce que vous le disiez pendant le disque. Il faut que les jeunes acteurs aient de la curiosité.
Ben voilà, c'est ce qui leur manque. Curieux de leurs aînés, curieux des interprétations avant des rôles qu'ils étudient en cours. Voilà, et puis à le lire. Tout simplement lire des pièces, aller au théâtre et même aller au cinéma et ne pas se regarder le nombril, parce que jouer la comédie, ça n'est pas se regarder le nombril. Et comme tu l'as dit tout à fait justement, non, je sais plus si c'est toi qu'il faut s'adresser, c'est avec le public.
Oui, c'est Jérôme Robard qui le dit effectivement dans le reportage, mais c'est votre idée aussi. Exactement.
À lire, je ferais bien à vos auditeurs qui ont envie de faire ce métier un jour peut-être, Écoute mon ami de Louis Jouvet, qui justement parle à un jeune acteur en assez peu de mots et qui dit des choses essentielles.
Merci Reda Kateb.
On peut réécouter sur franceinter.fr les deux entretiens que Jean-Pierre Merlin nous avait accordés.
Exactement. Merci beaucoup Reda Kateb. Merci beaucoup Dominique Besnéard.
Merci à vous deux.
On vous laisse les clés du générique. Au revoir.
Oui, là par exemple, on est là assis, je suis assis avec vous. Je suis comme j'étais à 40 ans, quoi. 35, 40 ans. Oui, je vois pas de différence. Ça, c'est du pot. Hein.
Ah, oui.
Ah, bah, tu parles, Anatole. Merde au cul, ma chemise colle.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma.
Il y a des réalisateurs et des acteurs.
Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs.
Les prises de vue sont des prises de son.
Sporto Cantes a écrit la musique du générique.
Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez.
Hugo Combes s'est occupé de la préparation.
C'est une émission réalisée par Céline Hilla.
Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas.
Et moi j'y étais, Dominique Besnéard.
Et moi, Reda Kateb, j'y étais.
Et lui, Jean-Pierre Marielle, il y était aussi.